Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, comme tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il est là à mes côtés, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, on vous propose aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie de faire un point sur le coming out. Ce moment, ce passage obligé ou pas, on le verra, où l'on révèle son orientation sexuelle à ses proches. Pourquoi en 2021, est-ce encore une étape souvent compliquée, redoutée même avec ses parents ou dans son milieu professionnel? Y a-t-il des précautions à prendre, des conseils à suivre pour que cette annonce se déroule le plus paisiblement possible? Pour nous éclairer sur ce sujet toujours sensible, nous recevrons en studio Saverio Tomasella, il est docteur en psychologie. Ensuite, comme tous les lundis, il y aura la chronique beauté de Benjamin Lévesque pour bien démarrer la semaine. Aujourd'hui, il va nous donner tous ses meilleurs conseils pour ne plus avoir, Jimmy, écoutez bien, les cheveux gras. C'est important quand même, hein, comme sujet. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera d'hyperdépendance amoureuse quand se séparer de l'être aimé est une souffrance difficile à supporter.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question d'Aurélie. On l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mélanie. Voilà, je viens à vous parce qu'avec mon copain, on essaye d'avoir un enfant. Sauf que le problème, c'est que on est tous les deux fumeurs et on ne sait pas trop à partir de quel moment est-ce qu'il faut qu'on arrête de fumer. Donc on voulait votre avis là-dessus et on voulait savoir aussi, du coup, s'il y avait des risques pour la santé de notre futur bébé si on continuait de fumer. Merci beaucoup et bonne journée.
Alors Aurélie, pour vous répondre et vous aider à préparer au mieux ce beau projet, ce projet bébé, on a interrogé pour vous, le docteur Rosalie Cabri, gynécologue, membre de la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale. Elle travaille au CHU d'Amiens.
Il est effectivement important de se poser cette question dans le cadre d'un projet de grossesse. Bien sûr, le plus tôt possible en amont du projet de grossesse serait le mieux et au moins 3 mois avant l'arrêt de la contraception. Le tabac peut avoir des effets toxiques directs sur la qualité des ovocytes chez la femme, sur la qualité des spermatozoïdes chez l'homme et des effets indirects sur la qualité de l'environnement de la grossesse. C'est ainsi que l'on sait que en cas de tabagisme, on peut observer une augmentation des risques de grossesse extra-utérine et des risques de fausse couche. Par rapport à la santé de l'enfant futur, le fait d'être fumeur au moment de la grossesse peut exposer l'enfant à des problèmes de fertilité future. Le tabagisme parental est également évoqué dans le surrisque de développement de cancer dans certains types de cancers chez l'enfant.
Et voilà, c'était le docteur Cabri au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, aujourd'hui, on va prendre une deuxième question pour vous. Enfin, aujourd'hui, comme tous les jours. Celle de Johan, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Avec l'ouverture prochaine des terrasses, je me demande quand même si c'est pas dangereux d'aller dans un restaurant. Déjà parce qu'on se rapproche d'autres personnes, mais aussi parce que les cuisiniers font pas forcément de tests PCR. Alors je voulais vous demander si la Covid passait par la nourriture et si on pouvait être contaminé à l'extérieur. Merci pour votre réponse. Bonne émission.
Jimmy, alors effectivement, à J-2 de l'ouverture des terrasses, on est tous dans les starting blocks. Certaines questions néanmoins peuvent se poser. D'abord, répondons précisément à Johan. Est-ce que le SARS-CoV-2 peut se transmettre au travers de la nourriture?
À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve d'une contamination du coronavirus au travers de la voie digestive par alimentation. Alors, tout d'un coup, c'est vrai qu'on va de nouveau s'inquiéter. Pardon, le micro vient de se casser. On vient de s'inquiéter de la transmission liée au cuisinier, mais on ne s'est pas posé ce genre de questions pour votre boucher, le poissonnier, l'épicier, le maraîcher. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut évidemment que le cuisinier se lave les mains parce qu'il aura de vous transmettre d'autres cochonneries.
C'est les règles d'hygiène de base. Exactement. En cuisine.
Donc ça, ils vont le respecter en temps normal. Ils vont porter le masque, ils vont se laver les mains. Et puis, petit à petit, on va être vacciné. Donc, la contamination par voie alimentaire, elle est quasiment nulle, voire inexistante à l'heure actuelle.
Très bien. Et quid du risque pour le coup de contracter le Covid en terrasse malgré tout, en extérieur?
Proche de zéro, encore une fois. Alors, faut pas oublier que c'est dans les milieux clos qu'on tombe malade. Il y a pas de cluster en extérieur. Si on regarde la probabilité de tomber malade, elle est quasiment 20 fois supérieure en extérieur qu'en intérieur, d'après le ministère de la Santé au Japon. Et on pense que c'est moins de 10% des transmissions. Alors, lorsque vous êtes au restaurant, à l'extérieur, vous avez plein d'air. Et donc, si jamais quelqu'un est malade, les particules de virus vont rapidement être diluées et donc le risque d'aérosol est proche de zéro. En revanche, il est possible que votre voisin balance des postillons, donc des petites gouttelettes qui peuvent vous rendre malade. Raison pour laquelle il faudra tous être vaccinés pour qu'on puisse remanger de façon un peu plus sereine.
Bon, et au passage, je crois que vous avez une bonne nouvelle. Vous nous dites quelque part, allez-y au resto, en terrasse, en respectant bien sûr les gestes barrières, car partager un repas ou un verre entre copains, c'est très bon pour notre cœur et notre santé cardiovasculaire.
Mais oui, pas que. De nombreuses études ont montré que les personnes qui vont être engagées socialement, c'est ce qu'on va faire, on va se retrouver. On va être en famille, entre amis, on va partager un repas, même si finalement ce repas, on pourrait le faire à la maison, mais ça nous fait du bien. Et on s'est rendu compte que ça diminue le risque de mourir de dépression, de mourir tout simplement, ça limite les maladies cardiovasculaires. Et puis, de façon plus générale, on sait que les personnes qui vont souffrir d'isolement ont deux fois plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc en quelque sorte, avec le Covid qui est en train de se terminer, tant mieux, lorsqu'on va se retrouver sur une terrasse, eh bien on va rompre l'isolement et ça va nous faire du bien. C'est pour ça qu'on est tous enjoués à justement participer à un repas.
Créer du lien, c'est bon pour la santé.
Exactement, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur, puisque vous allez synthétiser moins de cortisol, moins d'adrénaline, et finalement ça va être bénéfique pour votre santé.
Allez, diminuons notre stress, gardons les gestes barrières, mais tous en terrasse. Merci Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie aujourd'hui et on a décidé de s'intéresser au coming out, cette étape au cours de laquelle on révèle son orientation sexuelle à ses proches. Est-ce un passage obligé pour les personnes homosexuelles? Pourquoi est-ce encore un sujet si sensible en 2021? On y revient très vite, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour ce dossier du jour. Bienvenue docteur Saverio Tomasella, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes docteur en psychologie et auteur du livre Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, qui est paru chez Larousse. Alors Saverio, aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et les autres, je dirais. On va s'intéresser plus particulièrement, nous, au coming out cet après-midi. Pour celles et ceux qui ne le savent pas trop, on ne sait jamais, hein, il y a des gens qui peuvent ne pas connaître ce sujet-là, expliquez-nous ce qu'est un coming out. Est-ce que c'est forcément, d'ailleurs, révéler son homosexualité?
Alors, un coming out, c'est tout simple, c'est une révélation. C'est quand on annonce à quelqu'un ou à un groupe de personnes ou en public quelque chose d'intime qui nous concerne. Mais ça peut concerner une maladie grave, par exemple Steve Jobs quand il a eu son cancer et qu'il a annoncé qu'il allait en mourir en quelques mois. Ça peut être s'arrêter de travailler pendant un an pour faire le tour du monde. Ça peut se lancer dans une nouvelle activité. Et ça peut être bien sûr annoncer son homosexualité ou sa transsexualité.
Mais est-ce qu'on est obligé de le faire? Je ne sais pas, quelqu'un d'hétéro ne va pas annoncer à ses proches ou à ses parents que finalement il est attiré par des femmes quand c'est un homme ou des hommes quand c'est une femme?
Oui, on n'est pas du tout obligé de faire un coming out quand on est homosexuel. Ça peut aussi se deviner, on peut le laisser entrevoir. Donc c'est chacun qui choisit si ou elle ou il a envie d'en parler publiquement.
Révéler son homosexualité, c'est quand même moins tabou et heureusement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais c'est toujours, on a l'impression, un passage difficile pour beaucoup de gens. Pourquoi c'est toujours, même en 2021, un sujet aussi sensible?
Alors déjà parce que ça concerne une minorité de personnes, l'homosexualité concerne à peu près 10% de la population, donc une minorité. Ensuite parce que même si la culture a beaucoup évolué, c'est pas encore complètement bien vu par tout le monde ni accepté par tout le monde. Et il y a cette question de la honte, si je l'annonce, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Donc ça retient certaines personnes d'en parler.
Et est-ce qu'il y a une différence entre les garçons et les filles? Est-ce que c'est mieux accepté, par exemple, pour une femme?
On a l'impression, hein, je trouve, mais je ne sais pas si c'est vraiment doigt mouillé, je n'en sais rien.
En règle générale, c'est plus facile pour une femme, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans une culture viriliste, on est encore dans une culture machiste, on a l'impression que les homosexuels hommes sont des sous-hommes. Et puis, il y a la question de l'enfantement. C'est-à-dire que même si une femme est homosexuelle, pour elle, c'est possible de donner naissance à un enfant.
Je dis que c'est plus facile, mais je ne dis pas, il y a des cas, évidemment, même chez les femmes, pour lesquelles c'est très difficile, évidemment, on n'y passe pas. Hein. Comme si c'était, en fait, vous disiez, les hommes, il y a ce côté, pourquoi c'est parfois plus difficile? C'est parce que pour un homme, c'est comme si c'était déjà perdu, alors qu'une femme, vous dites, elle peut avoir un enfant. Pour les hommes, c'est ça l'inquiétude, souvent, forcément, un homme qui annonce qu'il va être en couple ou qu'il est en couple, par exemple, avec un autre homme, c'est, bon, bah, celui-là, il n'aura jamais d'enfant, c'est ça?
Alors, je pense que c'est déjà une forme de déconsidération où on pense qu'un homosexuel n'est pas un homme comme les autres, n'est pas un homme vrai. Mais il y a aussi, pour les parents ou les grands-parents ou la famille, la question de l'enfant, d'avoir des petits-enfants ou des nièces ou des neveux.
Et puis même lorsque la famille semble ouverte et le climat plutôt apaisant, parfois on ne va pas forcément oser en parler. Pourquoi c'est si difficile? Est-ce qu'il y a des facteurs qui vont freiner l'annonce?
Oui, parce que chez beaucoup de personnes, il y a la peur de décevoir. Donc on va annoncer quelque chose qui n'était pas prévu, qui ne qui sort du modèle général. Et donc, on se dit, je vais décevoir mes frères, mes sœurs, mes parents.
Même si on sait que ses parents, ses frères et sœurs sont ouverts, parfois, on a quand même cette crainte-là.
Oui, alors même si les parents sont ouverts, on sait que ça ne va pas être un gros problème, mais on a cette crainte parce qu'on se dit, peut-être qu'ils s'attendaient à autre chose. Peut-être que même s'ils sont très ouverts sur la question de l'homosexualité, ils ne pensaient pas que ça allait les concerner eux directement avec leur enfant. Mmh. Donc, ça n'est jamais facile à avouer, enfin, à annoncer.
Mmh. Quand on entend les retours de personnes parfois qui ont fait leur coming out, ils disent souvent, on entend ça, on lit ça, ça a été un soulagement. C'est à ce point-là, qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Pourquoi c'est une façon d'arrêter de passer à côté de sa vie, d'arrêter de mentir, c'est ça?
Alors oui, déjà d'arrêter de passer à côté de sa vie, parce que tant qu'on ne l'a pas annoncé officiellement, on est obligé de le vivre de façon plus ou moins discrète ou cachée. Mais aussi, je pense que c'est une longue préparation. Un coming out, on se prépare comment je vais le dire, à qui je vais le dire.
Que ce soit d'ailleurs pour la sexualité ou autre, quand on annonce quelque chose, un gros secret, une révélation, comme vous disiez.
Voilà, quel que soit le type de révélation, effectivement, on s'y prépare. Au début, on n'ose pas, puis petit à petit, on se sent capable d'en parler. Et au moment où on fait cette révélation, ben ça y est, c'est officiel. Donc on n'a plus besoin ni de s'y préparer, ni de le cacher, ni de le garder pour soi. Et ça libère en fait beaucoup d'énergie.
Et certains ne vont pas le faire, pas d'annonce. Est-ce que c'est finalement par facilité? Est-ce que c'est plus facile de ne jamais en parler? Et finalement, peut-être que sur le long terme, on en souffre un peu plus?
Voilà, hein. À court terme, on a l'impression que c'est plus facile. En fait, non, parce que ça prend beaucoup d'énergie de devoir vivre certaines choses sans en parler, sans le montrer. Donc finalement, on crée une vie, une espèce de double vie. Donc ça prend énormément d'énergie. Et de toute façon, on passe vraiment à côté de la possibilité de se montrer aux autres tel qu'on est. Et même si au début, ça peut être difficile pour les autres de nous accepter comme ça, au fur et à mesure, quand on a fait son coming out, quel que soit le type de coming out, on sait que les autres nous prennent pour qui on est vraiment et ça facilite toutes les relations.
Mmh. Mais parce que c'est comme vivre peut-être un peu dans le mensonge. Alors, je veux dire, est-ce que c'est si grave au fond de mentir? On ment tous un peu, plus ou moins, mentir à 2-3 personnes, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'a pas une double vie dans laquelle on est très épanoui et où on en parle librement. Mais ne pas le dire juste bon, à ses parents, admettons si c'est ça la crainte. Ça peut quand même être lourd d'avoir une ou deux personnes à qui on ment, par exemple?
Alors là, ce ne serait pas mentir, ce serait cacher. Si c'est par exemple des parents qui ne l'accepteraient vraiment pas, il y a des jeunes homosexuels qui ne vont pas le dire à leurs parents. Mais de toute façon, ça pèse parce que c'est tellement plus facile de dire les choses, de dire qui on est et de pouvoir être reçu plus ou moins facilement, mais en vérité à partir de qui on est vraiment.
Saverio, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, on vous décrypte ce qu'est réellement le coming out. Et dans un instant, on va se mettre justement du côté des parents qui découvrent l'homosexualité de leur enfant. Même quand on est ouvert, ça peut être complexe à accepter. On va voir pourquoi dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Et donc, il est toujours en studio avec nous. C'est vous, Saverio Tomasella. Vous êtes docteur en psychologie, l'auteur du livre Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, qui est paru chez Larousse. Alors, avec vous, on décrypte aujourd'hui ce passage vécu par un certain nombre de personnes homosexuelles, le coming out, moment où on révèle à son entourage son orientation sexuelle. Et alors, on va passer aussi du côté de ceux qui l'apprennent, cette nouvelle, cette révélation, notamment les parents. Comment ça se passe? La plupart d'entre eux, quand même, quand on entend des histoires autour de ce coming out, souvent ils ont dit « je suis tombée des nues » ou pas, justement, parce qu'on se dit qu'ils devaient bien avoir des soupçons.
La plupart du temps, les parents s'en doutent. Ils ont eu des signaux qui leur ont fait penser que peut-être leur enfant, garçon ou fille, était homosexuel. Donc, c'est pas une surprise totale, mais néanmoins, l'annonce, ça fait tout de même un choc. Parce que soit ils disaient non, je me fais des idées, soit ils pensaient que l'annonce se ferait plus tard. Donc de toute façon, c'est toujours difficile, même si on est complètement favorable à une sexualité homosexuelle ou hétérosexuelle pour ses enfants. Le moment de l'annonce, c'est ça y est, déjà c'est, mon enfant est grand, il a une vie sexuelle ou elle a une vie sexuelle. Et bon, bah maintenant, il a choisi ou elle a choisi son orientation sexuelle. Donc ça n'est jamais facile, c'est toujours un choc pour les parents.
Et je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais on dit souvent que les mères acceptent plus facilement le coming out que les pères. Est-ce que c'est vrai et comment on l'explique?
Alors, dans la plupart des cas, c'est encore vrai, même si les choses changent, évoluent. Déjà parce que les mères sont encore plus proches de leurs enfants, garçons ou filles. Elles posent plus de questions intimes. Elles sont là généralement plus souvent que les pères. Mais aussi parce que du fait de cette culture de la virilité, les pères sont gênés, surtout s'il s'agit du fils, sont gênés en se disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai pas été un bon père ? Est-ce que j'ai pas donné les bons codes à mon fils ? Est-ce que ça vient de moi ?» Et ça les renvoie quelque part à un manquement dans leur paternité. Et donc les pères préfèrent rester en distance.
On est donc du côté des parents et de ce coming out. Alors vous l'avez dit, quoi qu'il arrive, qu'on soit ouvert ou pas, qu'on soit prêt à l'accepter ou pas, ça peut être un choc, c'est un choc la plupart du temps. Et même on peut passer par plusieurs émotions, on sait qu'il y a certains parents qui vont s'écrouler, qui vont pleurer devant cet enfant qui leur fait leur annonce. C'est normal comme ça de faire toute la palette d'émotions d'un coup, la surprise, et puis tout d'un coup on va pleurer, on ne sait même pas pourquoi on pleure. C'est normal pour les parents?
Oui, tout à fait, c'est complètement naturel parce que c'est une annonce importante, c'est une annonce qui oriente toute une vie, et peut-être la suite des relations familiales, et notamment aussi peut-être le deuil de petits-enfants pour les parents. Donc ils vont passer par toutes sortes d'émotions, la surprise, parfois le refus, le déni. Et après, quand ils acceptent la réalité, ça peut être un moment de révolte ou de colère en disant « Mais pourquoi mon enfant n'est pas comme les autres ?» Parce qu'il y a aussi la question de la réputation par rapport aux amis des parents ou à la famille. Et après, une fois que c'est accepté, ça va être plutôt la tristesse comme une forme de deuil. Eh bien, c'est comme ça, c'est la réalité.
C'est pas grave, il faut passer par là.
C'est pas grave. Et il y a un moment d'acceptation qui peut durer quelques mois, qui va être plutôt du côté de la tristesse.
Et certains parents vont avoir parfois des mots durs, très durs à ce moment-là. Est-ce que ça peut blesser les enfants pendant des années, même si on finit, entre guillemets, par accepter ? Est-ce
oui.
que c'est indélébile ?
Oui, c'est ça. Il y a des mots durs, il y a des mots forts qui peuvent marquer.
Du genre, t'es plus mon fils. Voilà. Il y a eu des cas comme ça, c'est terrible.
T'es plus mon fils, t'es plus ma fille, ou tu n'as plus rien à faire chez nous, ne mets plus les pieds ici, ou je vais te déshériter. Enfin, toutes sortes de choses comme ça, ou t'es un sou, enfin, t'es une merde, quoi. Des choses de ce genre-là, qui vont beaucoup blesser les enfants, surtout s'il n'y a pas d'excuse après. C'est-à-dire que si le soir ou le lendemain, on dit, moi, excuse-moi, j'ai été surpris, je me suis emporté, j'ai dit des mots qui dépassaient ma pensée, c'est pas du tout ce que je pense de toi, excuse-moi. Donc là, ça va. Mais s'il n'y a pas eu d'excuses après, les enfants peuvent se sentir vraiment blessés pendant des années et ça peut leur faire perdre confiance en elles ou en eux.
On le disait donc attention effectivement aux mots qui peuvent être prononcés dans ces moments-là, même si c'est la surprise et parfois on ne sait pas comment on va réagir.
Et dans ce cas-là, ils vont me dire je suis surpris ou voilà. Je suis pris de court ou je ne sais pas comment réagir. Ou
Rien qui soit péremptoire et blessant voilà. Comme ça, enfin, au mieux en tout cas, voilà. Essayer de faire au mieux. Il y a encore malheureusement des rejets complets venant de certains parents. Vous disiez, certains qui disent je vais te déshériter, tu n'es plus mon fils, va-t'en. Enfin, des enfants qui se retrouvent parfois dehors, hein, livrés à eux-mêmes, tout seul. C'est prévisible dans ces familles. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui s'apprêterait peut-être à le faire, comment savoir si son parent ou son père ou sa mère va réagir de cette façon-là?
Alors, c'est assez prévisible pour les enfants et c'est important qu'ils en tiennent compte quand ils deviennent adolescents et qu'ils ont envie d'annoncer leur homosexualité. Parce qu'il y a des familles qui sont homophobes.
Ouais.
Il y a des familles où, en tout cas, un des parents ou certains oncles et tantes ou grands-parents expriment de façon clair, un rejet de l'homosexualité. Et dans ces familles-là, il vaut mieux être précautionneux et peut-être l'annoncer qu'à un des deux parents ou
ne pas le faire du tout, même, vous conseillez peut-être
ne pas le faire du tout, tout de suite. Attendre quelques années, attendre d'être en couple avec quelqu'un dans une relation stable, mais pas forcément se jeter dans la gueule du loup et savoir qu'on va se prendre des coups de griffe, quoi. C'est pas la peine.
Parce que du coup, un jeune qui est rejeté pour son homosexualité, est-ce que ça peut avoir, on s'en doute, mais un impact négatif sur sa santé, et plus particulièrement sur sa santé mentale? Est-ce qu'on peut en souffrir vraiment beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire?
Oui, il y a un impact sur la santé en général et sur la santé mentale, dans la mesure où à partir du moment où un jeune sent qu'elle ou il ne peut pas accepter son homosexualité et la faire accepter par les autres, il va ou elle va avoir tendance à vouloir soit la réprimer et faire comme si ça n'était pas le cas, mais ça va ressortir de façon pulsionnelle par des passages à l'acte, souvent des rapports qui peuvent être non protégés ou pas assez protégés, donc avec le risque de maladies sexuellement transmissibles, mais aussi des jeunes qui vont se décourager, qui vont se déprimer, qui peuvent devenir très anxieux, se replier sur eux-mêmes, voire avoir des tendances suicidaires ou à ce moment-là, faire des passages vers la drogue. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux dire aux jeunes de fréquenter des personnes qui acceptent leur sexualité telle qu'elle est pour ne pas avoir à se replier ou à faire ce genre de passage à l'acte.
Sorio, Thomas Zella, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas. On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous dit tout sur le coming out homosexuel. Et juste après, on va voir en détail ce que l'on peut conseiller à ceux qui s'apprêtent peut-être à franchir ce pas. Bien qu'il n'y ait aucune règle stricte, on va voir comment éventuellement se préparer pour que cette annonce aux proches se déroule le plus paisiblement possible. On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être de retour très vite. Juste après un peu de musique, on écoute le groupe Coldplay avec leur dernier titre, Higher Power.
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just gonna go out by it, kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, it's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know. You've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. Night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circling through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you really someone I wanna know. I wanna know. You got, yeah, you got a high. You got, yeah, you got a high. Yeah, you've got, oh, you got a high. My hands up shaking just to let you know now. You've got a higher power. You got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah.
C'était le groupe Coldplay sur Europe 1 avec leur dernier single qui a été lancé, dévoilé depuis l'espace il y a quelques jours par notre Thomas Pesquet national. C'était Higher Power.
Sans rendez-vous, c'est reparti avec AJP, acteur de la protection sociale et de l'épargne.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et il nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Saverio Tomasella. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et donc qu'à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, on s'intéresse avec vous aujourd'hui au coming out. Alors Saverio, est-ce qu'il y a une bonne façon déjà de faire son coming out ou pas?
La meilleure façon de faire son coming out, c'est de ne pas en faire.
Ah.
Oui, c'est comme on le disait au début de l'émission, les hétérosexuels ne vont pas voir leurs parents, leurs amis en disant « je suis... »
Papa, maman, je suis hétérosexuel.
Je suis hétérosexuel, donc c'est pareil pour les homosexuels. C'est-à-dire qu'on peut parler de sa copine ou de son copain, l'amener en soirée avec soi, en parler d'une compagne, comme d'une compagne ou d'un compagnon, montrer sa vie sentimentale sans la cacher, et petit à petit les gens comprennent qu'on est homosexuel, mais on n'a pas forcément besoin de le verbaliser, de l'annoncer.
Et finalement, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel, ce qui peut gêner les parents, c'est le rapport à la sexualité. Et donc peut-être aborder le fait qu'on est heureux avec quelqu'un, tout simplement, plutôt que de sous-entendre des trucs un peu sexuels qui seraient malaisants pour tous, en fait, hein, quelle que soit l'orientation sexuelle.
Exactement, c'est ça la difficulté, c'est qu'on n'a pas besoin de parler de sa sexualité. On peut simplement dire, quand je vais voir... Marie ou quand je vais voir Nicolas, je suis bien, voilà, est-ce que je peux rester dormir chez elle ou chez lui? Et petit à petit, les parents vont comprendre que c'est peut-être plus qu'une amitié. Et en fait, c'est plus facile pour elles, pour eux, les parents, de comprendre qu'bon, ben, y a une relation forte qui est en train de se dessiner avec quelqu'un et que c'est de l'ordre de l'amour, de l'affection, de la tendresse, du sentiment. Et comme ça, ça évite effectivement d'être trop brutal par rapport à la question sexuelle.
Alors si en tant que parent, justement, on l'a dit tout à l'heure, souvent, quand il y a cette annonce qui est faite, ben, vous dites que les parents avaient des soupçons en tout cas. Si on a des soupçons, est-ce que, d'ailleurs, je ne sais pas, il faut en parler à son enfant, à son ado, ou attendre, il vaut mieux toujours attendre qu'il vienne vers nous sur ce sujet-là?
En règle générale, il vaut mieux attendre qu'un enfant vienne vers nous pour parler de quelque chose, surtout pendant l'adolescence. Et quand on a des questionnements ou des intuitions, bon, bah, on peut aussi spontanément parfois lancer le sujet, mais pas forcément en posant la question directement. Ça peut être à la suite d'un film, d'un livre.
Oui, on parle d'un débat de société.
Voilà, un débat de société ou un ami qui est homosexuel. On en parle et on voit comment en parler librement avec son enfant qui peut, à ce moment-là, se sentir plus détendu en se disant « Tiens, maman, papa parle de ça facilement avec moi. »
Bon, donc, on glisse pas à table, dis donc, est-ce que t'es gay ? Non, ça se fait pas.
Mais rien n'est impossible, rien n'est interdit, parce que si on fait les choses avec amour, même cette question-là, elle ne pose pas de problème. Mais il vaut mieux y aller progressivement et avec tact.
Est-ce que lorsqu'on est un enfant et qu'on veut faire son coming out, est-ce qu'on a intérêt à laisser des indices volontairement, grossièrement? On laisse traîner un magazine gay, par exemple, ou il vaut éviter ce genre de choses et il faut aller plutôt franco, faire une vraie annonce que des sous-entendus qui peuvent être un peu mal perçus parfois?
Je pense que chacune et chacun étant différent, et les familles aussi étant différentes, les jeunes savent aussi peut-être que parfois il vaut mieux laisser des traces,
des indices,
faire un jeu de piste, une chasse au trésor, pour que dans quelques mois on puisse en parler à table avec papa et maman. Mais c'est vrai que toutes les façons de mettre les parents au courant progressivement sont bonnes.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, alors on l'a parlé tout à l'heure, il y a des familles effectivement où c'est très fermé, où les parents, les proches sont très ouvertement homophobes. Là, vous conseillez quoi ? D'attendre plutôt quand même d'avoir quitté la maison aussi, d'avoir pris son indépendance pour annoncer s'il y a besoin d'annoncer ?
Alors, la première chose qu'on peut leur proposer, c'est d'écouter cette émission, c'est-à-dire de dire aux parents, voilà, Europe 1, tel jour, à parler de cette chose-là. Parce que c'est vrai que quand ça passe à la radio, à la télévision, ça rassure les parents aussi, quand ils ne sont pas habitués à ce type de questions, et qu'ils se rendent compte qu'on
en parle
librement.
Ça existe et c'est bien, il n'y a pas de problème.
Beaucoup de monde
quoi,
et qu'il n'y a pas de problème. Donc ça peut être déjà écouter une émission de radio ou un podcast, leur offrir un livre ou un film qui parle de la question avec tact. Mais sinon, effectivement, c'est plutôt de partir au moment où de son premier travail ou de ses études, on change de ville. Et à ce moment-là, on pourra revenir avec un copain ou une copine quand on sera dans une relation stabilisée.
Et pour aider nos enfants, est-ce que nous, en tant que parents, on a un rôle à jouer ? En expliquant par exemple qu'il pourrait avoir un copain ou une copine, peu importe, est-ce qu'on a besoin de les mettre à l'aise petits ? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on commence à parler ? Parce que c'est difficile en fait, on ne sait pas trop.
Moi je trouve ça important que les enfants des petits sachent qu'il y a des familles dans tous les toutes possibles, ou des couples, des amoureux, peu importe quoi.
Moi aussi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Dès tout petit, je leur ai dit qu'ils pouvaient aimer qui vous voulez, l'important c'était l'amour, et ça pouvait être un garçon ou une fille, ils feraient comme ils voudraient, et pour échanger, ils verraient bien, eux et elles, ce qui leur correspond. Et donc je pense qu'on peut faire ça avec des enfants, en leur disant que ce qui compte c'est l'amour, et que ça peut être un garçon ou une fille, et puis les laisser tranquilles.
À l'adolescence, on arrête un peu.
À l'adolescence, ou même à partir du collège, à partir du moment où le message est bien passé clairement pendant l'enfance, ils ont cette mémoire qu'avec papa et maman, c'est tranquille. Ils pourront aimer un garçon ou une fille en fonction de leur cœur, de ce qui vient de leur cœur et de leurs sentiments. Et donc, ce sera beaucoup plus facile.
On a parlé beaucoup de la famille, mais est-ce que c'est important, je ne sais pas, ou est-ce que c'est nécessaire de faire son coming out aussi dans son milieu professionnel, par exemple ?
Alors, dans le milieu professionnel, on n'est pas obligé de le dire clairement, encore qu'on peut le faire avec les collègues qui sont des amis ou les collègues avec lesquels on s'entend très bien. Mais là encore, rien à cacher. C'est-à-dire, s'il y a une soirée avec les compagnons,
on vient avec
son compagnon, sa compagne, son copain ou sa copine. C'est-à-dire, vivre sa vie aussi avec les personnes du travail. Et si quelqu'un nous pose une question...
Il y a des milieux professionnels où c'est peut-être plus compliqué que d'autres. Enfin, là, par exemple, dans les médias, je dis, c'est plutôt, il n'y a pas de problème, j'ai l'impression. D'autres secteurs, peut-être, j'en sais rien, je cite le BTP, mais pourquoi, peut-être que non. Mais
curieusement,
j'ai un a priori là. Je sais pas.
Oui. Alors dans les médias, c'est vrai que c'est facile, mais dans le bâtiment aussi, parce que curieusement, les milieux d'ouvriers, comme ce sont des milieux concrets, physiques, l'homosexualité est finalement bien acceptée. Il y a d'autres types d'entreprises dans lesquelles c'est un peu entre les deux, où finalement on n'en parle pas facilement et on le cache. Donc, mais le fait d'en parler au travail librement, ça permet aussi à la culture d'avancer, aux mentalités d'avancer.
Pour terminer, ça verrait un message d'optimisme. Faire son coming out, ça aide à faire plein de choses, avoir un impact positif sur sa santé ?
Oui, parce que comme je le disais au tout début, le fait de libérer cette énergie qu'on consacre à ne pas dire, à penser comment je vais présenter les choses, à en avoir honte, à imaginer des choses parfois plus dramatiques que ce que c'est dans la réalité, tout ça, ça grève un bon équilibre psychique. Alors que quand on a annoncé qui on est, que ce soit ça par rapport à sa sexualité, ou comme je le disais, une activité qu'on aime bien faire, une religion qu'on a, un voyage qu'on veut faire, etc. Ouais. À partir du moment où on dit qui on est, c'est beaucoup plus facile à vivre.
Merci beaucoup Saverio d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce sujet important qui nous tenait à cœur. Je rappelle votre livre dans lequel il est aussi question d'homosexualité, mais pas que. Son titre, c'est « Lettres ouvertes aux âmes sensibles qui veulent le rester chez Larousse ». À bientôt, Saverio.
Merci, à bientôt.
À venir, comme tous les lundis, la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Vous allez voir, dans quelques minutes, il va nous donner tous ses conseils pour ne pas avoir les cheveux gras. Pour en savoir plus, surtout, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h à présent. Passons à... Non, soignons notre apparence, hein, comme tous les lundis avec Benjamin et sa routine beauté. Cette semaine, Benjamin, on va parler cheveux, puisque vous allez nous donner tous vos bons conseils pour ne plus avoir les cheveux gras. Pourquoi on a les cheveux qui s'engraissent en général? C'est quelque chose de normal, hein,
je crois. Oui, c'est parfaitement naturel, c'est dû à l'excès de sébum. En fait, sur votre cuir chevelu, vous avez 300 000 glandes sébacées qui... avec les hormones, eh bien, vont sécréter du sébum, hein, ce fluide gras. Et ce gras, il n'est pas là par hasard, il est très utile. Même, il sert à protéger la peau et le cheveu. Il forme d'abord une barrière contre les rayons UV. Et puis, il va agir contre la déshydratation. Donc, éviter que votre cheveu devienne tout sec et se casse.
Vous pouvez rassurer Mélanie, elle n'est pas la seule concernée.
Ils sont parfaits, mes cheveux, regardez, ils sont tout propres.
Non, ça va toucher principalement les 18-50 ans. Donc, c'est bientôt un lointain souvenir pour vous, Mélanie. Et aussi les petits bébés, puisque comme le dit le docteur Philippe Assouli, qui est dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, c'est lié à l'activité hormonale.
Chez le nourrisson, les cheveux sont super gras. C'est-à-dire qu'il y a les androgènes de la mère qui sont transmis au nourrisson, et c'est un âge où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sébum. Puis ensuite, pendant l'enfance, il y a peu de sébum, donc la peau est plutôt plus sèche et les cheveux sont plutôt plus secs. Puis après la puberté, c'est l'explosion de sébum, il y en a plein, donc avec l'acné, etc. Et puis, cuir chevelu qui devient beaucoup plus odorant lié à cette séborée. Et puis, en vieillissant, ça diminue. Chez l'homme, l'andropause, entre guillemets, et la femme, la ménopause.
Et quand la chevelure est trop grasse, c'est disgracieux. Et puis, ça sent mauvais, hein, vous l'avez sans doute déjà remarqué.
Non.
C'est parce que des bactéries et des champignons vont se développer et amènent cette odeur un peu forte.
Bon, ça donne pas envie, Benjamin, tout ce que vous nous décrivez. Là, généralement, on a tendance à vouloir se laver les cheveux dès qu'ils sont trop gras. C'est une bonne chose de faire ça?
Alors, généralement, non, parce que c'est un cercle vicieux. Plus vous lavez, plus vous accélérez la sécrétion de sébum. Mais selon Marine Perron-Léonard, qui est la directrice recherche et développement chez Eugène Perma, on peut se nettoyer les cheveux régulièrement, voire tous les jours, à condition d'utiliser le bon shampoing.
Il faut des shampoings simples, qui ne soient pas des shampoings, par exemple, nourrissants, etc. Ce ne sont pas des shampoings comme ça qui vont faire l'affaire, parce que le gras va s'associer à ce que vous allez déposer sur vos cheveux, et ça va être encore pire, l'effet va être encore pire. Donc il faut prendre des shampoings très simples. Dans les gammes, il y a souvent noté shampoing quotidien, shampoing doux, etc. Il faut prendre ces shampoings-là, et pas prendre des shampoings compliqués qui soi-disant, vous apportent des tas de choses. Quand on a les cheveux gras, ce n'est pas ça qu'il faut, en fait.
Et puis aussi faire des masques à l'argile, vous en mettez en bonne quantité sur tout le cuir chevelu et vous laissez reposer 25-30 minutes et ça va absorber le surplus de gras.
Benjamin, comment est-ce qu'on peut aider Mélanie? Est-ce qu'il y a certains gestes qu'il faut absolument proscrire?
Et oui, il faut éviter de se tripoter les cheveux ou de trop
ça,
les
c'est
brosser.
Vrai que je les touche beaucoup.
Et oui, c'est mécanique, mais plus on les touche, plus on aide le gras à glisser le long de la fibre et à se répandre. Et là, on aura encore plus cet aspect de cheveux gras. Et puis, selon la spécialiste Marine Perron-Léonard, il faut aussi éviter les sources de chaleur.
La chaleur, ça ouvre les pores de la peau. Donc plus vous allez avoir de chaleur, plus vous allez ouvrir les pores et plus vous allez donner l'occasion au sébum de s'épandre. Ce qui est assez bien de faire, c'est tout ce qui va pouvoir resserrer les pores au maximum et retarder l'apparition du sébum. Faire un rinçage à l'eau froide, par exemple, ça peut être intéressant. Ne pas utiliser le sèche-cheveux trop chaud aux abords du cuir chevelu pendant que vous séchez les cheveux. Donc mettre plutôt le sèche-cheveux en mode froid. Et voilà.
Et celles et ceux qui veulent partir vivre à la campagne ou partir tout simplement en vacances, allez-y, hein, puisque comme l'explique le docteur Philippe Assouli, qui est membre de la Société française de dermatologie, le stress et la pollution sont des facteurs aggravants.
Quand il y a plus de stress, plus d'activité, si on cavale partout, qu'on est dans un lieu confiné, dans un métro, qu'on va se laver les cheveux vite fait, puis qu'on va enfermer ça en serrant la coiffure, etc., on va augmenter le sébum. Si on est détendu en vacances, ça va réduire effectivement la séborée. Donc dans un lieu où on va être super actif et stressé, oui, ça va jouer. Si on est dans un lieu où on est détendu et où effectivement on a de l'air frais qui circule, il y a beaucoup moins de sébum présent.
Enfin, vous pouvez utiliser du shampoing sec, hein, ça dépanne une fois de temps à autre puisque ça absorbe les impuretés et le gras.
Merci beaucoup Benjamin pour ce conseil beauté du lundi.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. Elle va nous décrypter l'hyperdépendance affective. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Sans rendez-vous, votre émission Santé Bien-être de retour très vite, juste après un peu de musique. C'est la chanteuse Juliette Armanet avec ce titre qui tombe à pic, je trouve, juste avant la chronique de Catherine Blanc. C'est À la folie. C'était la chanteuse Juliette Armanet sur Europe 1 avec son morceau « À la folie ».
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et l'amour, c'est sur Europe 1. Entre 15h et 16h, on va passer à la toute dernière séquence de l'émission avec en studio avec nous Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Myriam. Elle a 24 ans et elle nous dit « Je suis très proche de mon copain, on vit ensemble et dès qu'il part voir des amis ou sa famille, je me sens vide, j'ai l'impression d'être super dépendante et j'ai du mal à vivre comme ça. Est-ce que vous avez des conseils à me donner ?» Alors Catherine, Myriam nous parle de dépendance en fait, mais est-ce que se sentir vide, ce qu'elle décrit, hein, elle parle carrément d'être vide quand son copain part, ça peut être considéré comme... Enfin, c'est ça la dépendance, clairement, elle le décrit bien, vous pensez ?
En fait, la dépendance, c'est une conséquence du fait de se sentir vide, c'est-à-dire qu'il y a chez elle une trop faible compréhension de sa valeur, et donc du coup un doute quant à elle-même, et elle ne se réduit qu'à ce que l'autre l'a fait devenir, l'a fait être, ce qui renvoie certainement à son histoire de petite fille avec sa maman, avoir besoin de téter l'autre, avoir besoin d'absorber l'autre pour se sentir remplie, sans doute parce qu'elle ne l'a pas été justement, et du coup dès lors qu'on n'a pas été, on n'a pas construit une idée de confiance en soi suffisante, et on fait de l'autre, des autres, là de son amoureux, le moyen d'existence, et donc le moyen d'une dépendance, qu'on pourrait avoir aussi au travers de la nourriture, par exemple. Vous avez des gens qui vont combattre cet état dépressif au sens de se déprécier en se nourrissant à l'excès pour pouvoir justement remplir ce vide sidéral qu'ils ressentent à l'intérieur de... C'est une grande douleur. Hein. Et ça n'est pas la preuve d'un amour. C'est vraiment la preuve d'une faiblesse personnelle.
Et du coup, cette dépendance affective, ça veut dire qu'elle est forcément liée à un traumatisme dans l'enfance, un abandon, quelque chose qui s'est passé, qui fait que désormais, on a besoin de l'autre. Et vous l'avez dit, au-delà des sentiments...
Oui,
c'est qu'on
sûr.
Se sent... c'est la dépendance, on se sent seul, en fait.
Oui, en fait, ça peut être ou un traumatisme, effectivement, avoir manqué d'une maman, dans un temps, évidemment, de petit nourrisson, parce que la dépendance se met vraiment en place très, très, très jeune. C'est souvent aussi une maman qui a été là, mais qui a été elle-même dépressive. Donc, elle n'était pas porteuse de positif dans le regard ou d'émerveillement de ses propres capacités. Elle n'a pas fait un super beau bébé dont elle est fière. Vous voyez, c'est une maman qui a peut-être vécu un baby blues qui a traîné en longueur, hein, parce que c'est pas le baby blues des quelques jours ou quelques semaines, mais qui a traîné en longueur. Et l'enfant, en se nourrissant de la mère, c'est comme nourri d'un lait qui n'était pas suffisamment nourricier, parce que ce lait, parce que quand un enfant se nourrit, il regarde la mère et il boit aussi les regards que la mère porte sur lui.
C'est la création du lien de départ.
Exactement.
C'est ça.
Et si la mère est dans ses pensées, si la mère n'est pas là, si la mère est sur la télévision, si la mère est en conflit avec quelqu'un à l'extérieur et qu'elle n'est que mécaniquement en train de donner le sein, l'enfant ne se sent pas rempli par la mère, ce qui va créer un grand sentiment de vide qui se répercute ensuite et trouve tous les moyens de dépendance pour essayer de se combler.
Alors là, Myriam, ce vide, elle le décrit dans sa relation avec son conjoint, pas avec sa mère, dans ce cas-là précis. Est-ce que ça touche vraiment plus les femmes que les hommes, la dépendance affective ? On aurait tendance à dire ça, mais je ne sais pas si c'est correct.
Non, pas du tout. C'est parce que, de toute façon, on le voit peut-être plus particulièrement exprimé par les femmes, puisque c'est plus de notoriété courante.
J'ai besoin de ma femme. Quoi,
oui, mais ils le font autrement. Leur dépendance est souvent dans l'organisation, c'est où tu vas, mais pourquoi tu rentres à telle heure. Donc il y a quelque chose d'un peu policier dans leur façon de faire, d'un peu agressif, mais ça n'en est pas pour autant différent en réalité.
Est-ce que cette dépendance affective s'accompagne d'autres traits de caractère, comme la jalousie, l'intolérance à la frustration, une labilité émotionnelle, on est un coup heureux, un coup ça ne va pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut retrouver ?
Oui, bien sûr. Dans l'agressivité est primordiale, bien sûr, puisque c'est la colère contre ce qui ne me remplit pas. C'est-à-dire, j'ai cru que ça me remplissait. Et puis, c'est fugace, ça disparaît, comme encore une fois la tétée, où je me nourris, je me remplis, et puis finalement je digère, je n'ai à nouveau plus rien, je suis à nouveau affamée, et rien ne suffit à me combler. Donc l'agressivité qui peut se faire par le biais agressif, officiel, colère, mais aussi, et jalousie, comme vous le disiez, mais aussi par le pleur, tous les gros chagrins, et évidemment c'est un état dépressif.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient bien sûr demain, même heure, sur Europe 1.
C'était Sans Rendez-vous avec Agipi. Pour vous protéger des aléas de la vie, découvrez l'assurance prévoyance Cap Agipi auprès d'un agent AXA et sur agipi.com.
Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir débuté la semaine avec nous. À présent, on cède la place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec historiquement votre bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour Mélanie.
Qui n'a jamais, quelle mère n'a jamais dit bah, « toi, t'es bien la fille de ta mère hein, », de dignes héritières. Bah, on va parler de Cléopâtre Sélénée, la fille de
Attendez,
Cléopâtre.
Attendez, qui est Cléopâtre Sélénée? Vous l'avez dit, je voulais la piéger parce que moi je ne savais pas qui était Cléopâtre Sélénée.
Bah, on va en parler avec l'immense écrivaine Françoise Sandor-Dingor.
J'ai hâte.
Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie. Et, oui. Et vous allez parler de qui?
Moi, je vais vous parler de la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, qui est quasiment
Lily
une
Rose.
Copie conforme. Ah là, tout de suite, quand on est dans l'histoire ah ben pure et dure, dans le gala, on sent que Mélanie, voilà, elle n'est pas abonnée à Historia, mais en revanche,
à Paris Match, elle y est.
Lily Rose Depp, ouais, je vais vous brosser son portail à 99%. Ouais.
Très bien, on sera à l'écoute comme tous les jours avec le docteur Jimmy Mohamed. Et vous aussi, je vous le conseille vivement, restez sur Europe 1.